Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission du Cercle laïque avec Bernard Charnomandic du Cercle laïque, justement, Luc Neveu, des débats de rouée, et puis moi-même, parce que autour du Cercle laïque, des débats de rouée et de Laverne, se sont constituées des rencontres dites le grand débat. Allez, parlez-nous de ça, Bernard, puisque c'est vous qui avez un peu pris les choses en main.
Disons que ma mission a été de coordonner l'ensemble d'associations qui se sont sentis concernés par ce grand débat.
Donc plein d'associations, comment on va faire?
Voilà, est-ce qu'il était opportun de participer à ce grand débat national qui semblait venir d'en haut? Est-ce que ce n'était pas un piège, une forme de manipulation? Est-ce que finalement ça pouvait servir à quelque chose? Ça, c'était des objections.
Vous avez tranché positivement.
On a tranché positivement, mais je veux dire qu'il y a eu un premier débat, et un débat tout à fait justifié, sur le fait que les associations s'engagent finalement dans cette organisation du débat. Et moi, mon sentiment était que nous, qui cherchons toujours, et depuis des années, je dirais, à mettre sur la place publique des débats de société, à avoir un engagement citoyen autour de la société, autour de l'égalité homme-femme, dans un temps plus ancien, autour du mariage, autour
du travail,
autour, disons, d'un certain nombre de thèmes qui concernaient le citoyen. Mais on avait quelques difficultés à mobiliser largement les citoyens autour de ces thèmes. Et d'un seul coup, nous arrive d'en haut.
C'est du pain béni, quasiment.
Oui, quasiment du pain béni, absolument.
On peut dire ça dans une radio chrétienne.
C'est une expression qui n'est pas très laïque, mais je dirais que d'un seul coup, il y avait une opportunité, un moment où la démocratie pouvait avancer, où le débat pouvait avancer.
Parce que là, c'était aussi des associations et chacune est venue, n'est pas venue défendre moi, mon truc. Non, non. On met ça en commun et on fait ensemble. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense que c'était intéressant parce qu'on avait l'impression qu'effectivement, il y avait une tentative de récupération du gouvernement, de ce mouvement citoyen, on peut dire, qui partait, il faut bien le dire également, un peu dans tous les sens. Et ce qui est assez frustrant, c'est que notre démocratie qui fonctionne, fonctionne bien quand on utilise les corps intermédiaires, que ce soit les élus, que ce soit les associations. Et c'était assez improbable et incompréhensible de voir en fait un mouvement relativement suivi, long, engageant beaucoup de personnes, dans une épreuve de force avec le gouvernement et une absence complète de dialogue, une absence complète de prise en compte des intérêts de l'autre et en allant tout de suite vers l'extrémisme des violences et ainsi de suite. Et les médias n'ont pas aidé. Je trouve que le gros intérêt de cette initiative locale a été de pouvoir rassembler des gens de tous horizons et de refaire descendre ces problématiques qui partaient un peu en live, on va dire. Mais on revenait sur du terre-à-terre, sur du concret, sur du local, avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient, tout en s'intéressant, bien entendu, à des problématiques extrêmement complexes, politiques, économiques, liées à l'Europe. Et ça, c'est intéressant d'avoir l'opportunité localement de rencontrer d'autres gens et de parler autre chose que de la pluie et du beau temps. À mon avis, le contenu des comptes rendus montre l'intérêt, la profondeur des questions qui sont débattues. C'est vraiment intéressant.
Et puis en plus, il y avait l'intervention aussi des gilets jaunes réellement, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les ronds-points sont venus dans ces débats. Ça, j'ai trouvé ça aussi assez remarquable, non?
Absolument. La diversité des composantes qui ont participé à ce débat est tout à fait intéressante. Elle va peut-être être illustrée par la liste des associations.
Oui, alors justement, ce que j'allais vous poser comme question, qui?
Alors, dans l'ordre alphabétique, Alif, l'association des jeunes musulmans de France.
Qui a une volonté de culture, d'ouverture.
D'éducation.
Et dans laquelle le président, je me permets de préciser, parce qu'il a invité les gens en disant, mais enfin, vous êtes en France, vous êtes citoyen, vous êtes né ici. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes musulman, vous devez participer. Et là, j'ai trouvé ça très pertinent. Et il y avait des gens qui ont participé.
Tout
à chaque fois.
Et vous verrez dans la liste qu'il y a d'autres associations qui sont souvent connectées, disons, au milieu issu de l'immigration et qui ont participé de manière active à ce débat. Donc l'ALIF en premier et cette première position, l'ALIF la mérite par l'ordre alphabétique, mais la mérite aussi par la qualité de son engagement dans cette affaire. Alors en seconde position,
Laverne, allez.
Allez, Laverne.
Alors, Laverne, on peut en parler. C'est une association qui défend les intérêts environnementaux essentiellement et qui a une bonne logistique de mobilisation, de communication. Il y a vraiment eu un effort certain de Laverne pour pouvoir s'intéresser à ces questions de grand débat national.
Et derrière, il y a 400 personnes. Ça aussi, c'est quand même pas rien. L'environnement était présent avec aussi le souci d'entendre les autres.
Absolument. Là, la composante environnementale était extrêmement présente dans ce grand débat. Elle était présente à Dreux. Elle était présente dans les associations qui, dès le départ, se sont mobilisées. Et Laverne a été vraiment parmi les toutes premières associations à comprendre l'intérêt et la nécessité de ce débat. En même temps, il y avait des associations intervenant dans la citoyenneté, dans le lien social, dans l'éducation. Donc, je vais continuer la liste. Dans le domaine écologique, toujours, l'ASVEG, une association qui est connectée à Laverne, mais qui a pour mission la sauvegarde du cadre de vie et qui n'aime pas beaucoup les autoroutes.
Il y avait les AMAP aussi en même temps.
Les AMAP aussi, absolument. Donc, les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne.
C'est important aussi parce que là, ça veut dire que les idées sur les circuits courts, enfin, là, il y a un commencement de réalité, et à Dreux, il y a une AMAP qui fonctionne avec un agriculteur bio. Enfin, je crois qu'il y a des choses là intéressantes. Et bon, ben voilà, ils étaient présents.
Et une des associations importantes qui a comme emblème le débat, c'est le débat Drouet, Raymond.
Oui, le débat Drouet, ben oui, parce qu'en fait, avec Laverne et avec le Cercle Laïque, on a été les initiateurs, si j'ose dire, de ce grand débat localement. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que, en fait, l'évêque de Chartres avait proposé, a invité les gens à venir se former pour débattre. Alors nous, on a débattu sans cette formation, mais ça veut dire qu'en fait, là aussi, les chrétiens, on leur propose de sortir. Et cette ouverture, elle se fait aussi grâce au partenariat qu'on a avec les autres.
Et il n'y avait pas que les débats de Rouet dans cet univers-là. Il y avait CCFD, je crois, aussi, Raymond.
Alors CCFD, mais le CCFD est très partie prenante parce que derrière ces enjeux du grand débat, il y a l'environnement, le réchauffement climatique. Et dans les pays des tiers-monde, c'est quelque chose qui est dramatique. Lorsque la sécheresse arrive dans des zones qui n'ont plus que 2 ou 3 mois de pluie alors qu'elles avaient 6 mois auparavant, eh bien, ça veut dire que l'agriculture est fichue et que les gens ont faim. Et ça, c'est quand même un enjeu de société.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand même, CCFD...
Ça veut dire Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire. Et c'est une association qui veut initier le changement, soutenir le changement. Donc c'est véritablement tout à fait sa place dans le grand débat.
Je continue la liste. Et là, j'en arrive au Cercle Laïque et à l'Université populaire du Cercle Laïque. Alors, je dirais, l'Université populaire du Cercle Laïque, c'est une vieille dame, puisque l'Université populaire à Dreux, je crois que c'est 1903, la première création. Et l'Université populaire, pour en dire un mot, elle se situe dans le mouvement de l'éducation populaire. Et donc les débats sont une forme naturelle, logique pour l'Université populaire. Et elle en a commis quand même de nombreux depuis l'année 1903 sur des thèmes de société, sur des thèmes internationaux, sur des thèmes sociaux. Donc aujourd'hui, il était bien logique que l'Université populaire se retrouve au centre de cette initiative pour le grand débat national.
Alors on peut associer la Fédération des œuvres laïques, qui aussi a été présente, au moins au troisième débat.
Au deuxième et au troisième.
Au deuxième aussi.
Absolument.
Et puis il y avait aussi le Secours populaire, dans cette même mouvance, avec ce souci de l'aide aux autres. Et je crois que c'est très, très important, et pas simplement une aide, entre guillemets, charitable, c'est véritablement faire quelque chose pour mettre les hommes debout. Et je crois que ça, c'est important et que...
Bon, et leur donner la parole. Et leur donner la parole. Puisque c'est pas tout à fait terminé d'ailleurs, un moment de la parole, c'est important que ça soit un moment de la parole pour les oubliés, ou pour ceux qui souffrent, ou pour ceux qui ne l'apprennent pas habituellement. Et le Secours populaire œuvre dans
cette perspective-là. Et on retrouve aussi, bien disons, qu'on peut rappeler que les Gilets jaunes étaient présents.
Absolument. Alors, je continue sur les associations qui ont œuvré pour ce grand débat. On a Femmes d'ici et d'ailleurs, connue sous l'acronyme d'AFIDA, à Dreux. C'est une association dont le titre dit bien ce qu'elle est, c'est-à-dire dont le but est de créer pour les femmes d'ici, mais aussi pour les femmes d'autres horizons, d'autres origines, de créer un lien de communication, d'échange, d'écoute entre les cultures.
De rencontre, et c'est vrai que c'est important parce que souvent, ces femmes restent chez elles. Donc là, très important.
Et puis, nous avions l'association JADE, qui joue un rôle important dans le lien intergénérationnel. JADE, ça veut dire jeunesse active, drouaise, ensemble, avec les seniors. La promotion d'actions d'éducation populaire, le développement aussi du lien social, c'est là la mission de JADE.
Alors on peut faire un paquet cadeau avec Viens, qui initie à la fois de l'alphabétisation, du soutien scolaire et de la relation interculturelle, qui aussi, par le soutien scolaire et le soutien aux familles, joue le même rôle que AFIDA. On peut mettre aussi l'association Les Deux Rives.
Les Deux Rives, bien sûr.
Dans cette même perspective.
Les Deux Rives, ce sont les deux rives de la Méditerranée, je crois. Et il s'agit de favoriser la mixité sociale et renforcer les liens entre les individus, notamment autour du code de la famille.
Il y a aussi une association d'alphabétisation AID, par contre,
oui, qui est une des plus anciennes associations d'alphabétisation.
De Dreux.
C'est véritablement vraiment un lieu d'éducation populaire et un lieu d'ouverture et de service des personnes.
Et puis de rencontre avec d'autres cultures.
Et donc, il y avait également des gens qui veulent vivre dans le pays de Rouet demain et après-demain. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué après le film Demain, donc, qui a été réalisé par Cyril Dion, qui est un Drouet. Et il y a un des groupes qui s'appelle La Ville à Vélo, qui essaye de promouvoir des modes de transport doux. Mais on voit bien également que derrière cela, il y a des penseurs, Pierre Rabhi par exemple, qui proposent de changer la société et qui donnent des solutions pour essayer de faire évoluer, de prendre à bras le corps un certain nombre de problématiques sociétales sur nos modes de vie et notre organisation. Et c'est intéressant d'avoir également cette association autour des débats, du grand débat.
Il y a aussi les amis de Dreux Coudegou qui étaient présents. Enfin bref, je crois qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'associations.
Finalement, on aurait eu plus vite fait de citer les associations qui n'étaient pas présentes.
Non, parce qu'il y a beaucoup plus d'associations qui, quand même, à Dreux.
Non,
forcément, peut-être. Les boulistes n'étaient pas forcément là.
Non, pas tous. Mais il pouvait y avoir des boulistes.
Ah, peut-être.
Non, l'idée est que toutes les associations qui, de près ou de loin, œuvrent, je dirais, dans le lien social, toutes les associations qui œuvrent dans le domaine écologique se sont trouvées concernées au premier chef par ce grand débat et ont vu là une opportunité de faire circuler un certain nombre d'idées pour lesquelles elles militent et pour lesquelles c'est leur existence même. Et je crois qu'elles n'ont pas été déçues.
Eh bien, cette première partie de l'émission nous a permis de présenter les partenaires du Grand Débat et puis nous allons un peu poursuivre après une pause musicale.
Tant et tant de colère de ne pouvoir casser ce mur qui nous enserre, nous fait nous ignorer. Ce mur fait de bêtises et de tant de mépris qu'on ne peut à sa guise atteindre ses amis. Tant de choses qui changent et la vie qui va fort, la vie qui nous dérange et qui nous donne tort, qui nous oblige folle à brûler nos vaisseaux et puis qui nous console avec un chant d'oiseau. Tant et tant et tant, mais je prendrai le temps. Tant de choses qui manquent à ce monde en folie, que même les saltimbanques à leur tour ont envie de montrer qu'ils y pensent et font plus qu'y penser. Pour porter l'espérance, il est bon de chanter. Tant de peur, tant de haine à nous brûler la peau, et ces gens qui deviennent des loups pour le troupeau. Tant de morts à la guerre, tant de morts pour rien, et puis tant qui espèrent à travers leurs gamins. Tant et tant et tant, mais je prendrai le temps. Tant de choses à vous dire, tant de choses, ma foi, que ça peut nous conduire encore loin cette fois. Vous dire la fêlure qui vient à pas léger, falsifier l'aventure et la désenchanter. Vous dire aussi l'attente de vous retrouver là, la tendresse effarante qui va de vous à moi. Vous dire quelle chance que vous soyez venu et que mon espérance ne soit jamais déçue. Tant et tant et tant, mais je prendrai le temps. Tant et tant et tant, mais je prendrai le temps.
Et bien, toujours dans l'émission du Cercle Laïque, à propos du grand débat. Alors, après avoir vu toutes ces associations et toutes ces personnes qui y ont participé, finalement, c'est 120 ou 130 personnes qui ont participé directement au grand débat, en étant présents physiquement, ben, comment vous avez organisé cette affaire? Parce que faire travailler ensemble 130 personnes d'horizons aussi différents...
Eh bien, on a eu peur. On a eu peur quand on a vu, dans la deuxième séquence du grand débat, le 2 mars, plus d'une centaine de personnes se regrouper dans la salle Saint-Michel, et comment va-t-on y arriver? Et finalement, je dirais presque, ça s'est passé. Et une organisation sur les 4 thèmes nationaux du grand débat a permis d'avoir des ateliers distincts et des ateliers dans lesquels la parole a circulé. Alors ces 4 ateliers,
on peut les rappeler,
c'était l'État et les services publics, c'était la démocratie et la citoyenneté, c'était aussi un atelier en apparence plus aride sur la fiscalité et les dépenses publiques et bien sûr la transition écologique. Et ces 4 ateliers ont été complétés par un 5e, complètement ouvert, où les personnes qui souhaitaient discuter librement de thèmes qui leur étaient chers, eh bien, se sont organisées et une 15aine de personnes se sont retrouvées dans une table qu'on a appelée la table blanche et ont abordé les sujets d'intérêt local, régional ou national qu'ils avaient en tête. Et je veux dire que le point, pour moi, majeur de cette séquence, c'était une forme de plaisir que les participants ont trouvé à échanger des idées, à parler. Et on pouvait craindre, dans le climat qu'on a vécu ces derniers temps, des affrontements violents, mais point du tout. Il y a eu un respect de la parole, il y a eu finalement une maturité démocratique dans cette capacité à parler de sujets parfois austères et dans le fait d'oser parler de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tabou et même s'il n'y avait pas une expertise absolue sur les questions de la fiscalité, eh bien, les 25 personnes qui étaient à cette table avaient toutes quelque chose à dire. Et ça, je crois que ça a été le point pour moi majeur, c'est cette libération de la parole et ce plaisir de la parole.
Et puis ce recours à l'expertise citoyenne, parce qu'effectivement, les citoyens n'ont pas peut-être l'expertise de ceux qui pensent à Bercy, pour prendre le thème de la fiscalité, mais peut-être ceux de Bercy pourraient peut-être en prendre de la graine pour simplifier leur procédure. Mais enfin, bon, allez.
Concrètement, dans un atelier dans lequel j'ai participé donc à 2 occasions sur la fiscalité, les dépenses publiques, on a constaté d'une part que le cadre proposé par le gouvernement était un peu trop rigide, avec des questions qui étaient fermées souvent, avec des choix qui n'étaient pas vraiment la bonne façon de prendre les problèmes. Et donc, on a remis en cause le cadre de façon justement à ce que toutes les personnes puissent parler. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la réunion du 2 mars, il y avait dans le groupe plus de la moitié des personnes qui n'appartenaient pas à une association, qui étaient là en tant que citoyens. Et ça a été intéressant d'avoir des échanges où, en fait, localement, la grosse 15aine de personnes qui étaient autour de la table a découvert des choses, à la fois au plan local, mais également des informations d'ordre national ou international qui circulaient dans le groupe. Donc, à la fois une richesse de débats sur des thèmes assez pointus, mais également la possibilité pour quelqu'un qui n'était pas un expert de pouvoir apporter soit ses questions, soit des réflexions. Et tout cela a amené, en fait, des échanges ouverts, c'est vrai. Souvent, on n'était pas d'accord, mais au moins, on débattait. Et ça, c'était intéressant. On respectait la parole des uns et des autres. Et on a pris en compte les remarques pour faire une synthèse. Et les synthèses écrites, en fait, ont circulé et ont amené des contributions écrites également en réponse qui ont permis de continuer, en fait, en quelque sorte, la construction de la réflexion du débat et de laisser des traces écrites qui seront à la fois remontées nationalement, mais qui serviront, à mon avis, je pense, Bernard, de base à une suite locale, qui est quand même l'objectif important de ce grand débat à Dreux.
Alors, on en reparlera effectivement de la suite locale, mais c'est vrai aussi que pour la transition écologique, on voit aussi qu'il y a eu ce même aller-retour entre ceux autour de l'Averne qui ont véritablement débattu, sont arrivés à des propositions sur l'artificialisation des sols, la préservation des espaces verts, enfin, le gâchis des ressources, qui ont posé des questions à la fois locales, concrètes, mais en même temps aussi, on n'a qu'une terre, et c'est intéressant parce que cela recoupe les revendications des enfants, des jeunes qui disent « mais au fait, cette terre-là, vous pouvez peut-être nous la préserver, en tout cas pas trop l'emprunter pour qu'on puisse y vivre, parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter une nouvelle terre ». Je trouve ça intéressant quand même.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que chacun des groupes, chacune des tables, ce sont des sujets transversaux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prend l'environnement, à un moment donné, on parle d'économie, on parle de politique, on parle de social. Quand on parle de fiscalité, évidemment, l'argent étant le nerf de la guerre, on traverse toutes les autres problématiques. La citoyenneté, pareil. Donc, on voit bien qu'il y a eu également l'objectif de pouvoir sortir du cadre et de repenser l'homme dans la société, l'humain dans la société. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant.
Absolument. Le concept, l'idée qui est revenu très souvent dans ces débats, c'est l'idée de justice.
Il y a une aspiration. Société injuste, c'est pas possible.
Absolument. Et il y avait une aspiration profonde à ce qu'on rende plus juste à la fois l'État, à la fois la fiscalité, à la fois la démocratie. Le mot de justice, ça, je crois qu'il était extrêmement fort et je pense qu'il sera entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de contributions qui ont tourné autour de cette notion de justice, qui peut éclairer d'ailleurs tout un ensemble de mesures qu'il est probablement souhaitable ou nécessaire qu'elles soient prises. Et je pense que les Gilets jaunes aussi ont ressenti ce problème de justice et que là, on retrouve à la fois dans le mouvement des Gilets jaunes et dans les personnes qui ont débattu, qui ne se reconnaissaient pas forcément toutes dans le mouvement des Gilets jaunes, on retrouve un certain nombre de communs. Celui de la justice, celui d'un citoyen qui, disons, d'un État plutôt, qui ne doit pas fonctionner uniquement en termes de rentabilité, mais qui doit être au service du citoyen.
Il y avait quand même aussi, me semble-t-il, quelque chose qui me paraissait intéressant, c'était l'homme au milieu de l'environnement, parce que finalement, un environnement soigné, c'est fait pour l'homme. En ce qui concerne la réflexion sur l'argent, l'idée que ce n'est pas à l'homme de servir l'économie, mais peut-être à l'économie de servir l'homme. Enfin, là, il y avait quand même aussi l'homme au cœur. C'est l'homme qui est au cœur de la création. Alors ça, c'est le jargon catholique. Mais l'homme, la terre est faite pour les hommes et elle est faite pour tous les hommes et pour chacun. Donc à la fois justice, mais en même temps, l'homme d'abord.
Et les échéances écologiques...
Enfin, l'homme, l'humain.
Oui, l'humain,
l'humanité,
la vie, on va dire la vie. Et les échéances écologiques, notamment l'échéance du climat, et l'échéance finalement de la biodiversité qui s'écroule, et de la terre qui finalement se désertifie, ces échéances-là, on les voit maintenant à court ou moyen terme au plus. Et donc ça fait voir probablement le fonctionnement de notre société, et donc le fonctionnement de notre État, d'une manière très concrète. Il faut absolument que l'État se mettent au service d'un certain nombre d'objectifs de l'humanité et pas d'objectifs
et
de rentabilité.
Alors là, il y avait, je pense par exemple, bon, j'étais au groupe Démocratie et Citoyenneté. Bon, lorsque les gens disent alléger le millefeuille administratif, c'était assez important. Lorsqu'ils disent mais faire en sorte qu'on comprenne quelque chose au charabia du langage technique, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de que l'informatique soit au service des citoyens. Enfin bon. La facilitation de la vie citoyenne, je crois que c'était intéressant, ça. Sortir de l'exclusion de la fracture numérique parce que c'est insupportable. L'informatique, qui devait signifier facilitation et non pas complication. Donc, il y avait là aussi cette volonté d'avoir des règles claires, les mêmes pour tous. On retrouve ce souci de justice, ce souci d'harmonisation, de vivre ensemble.
Et puisque, Raymond, tu nous parles d'informatique, allez, c'est un sujet que j'ai à cœur.
Oui.
Je vais dire un mot.
Professionnellement, en effet, en plus.
L'informatique, c'est extrêmement utile pour que l'État puisse mieux fonctionner. Ça, c'est tout à fait clair que l'informatique peut être au service de beaucoup de publics et de beaucoup de transactions, beaucoup d'opérations qu'on a à faire. Cela dit, lorsque l'informatique exclus. Lorsque un certain nombre de citoyens ne sont pas en état, parce que par culture, par manque de formation, par leur existence même, ils n'ont pas eu accès aux moyens de l'informatique ni aux moyens de s'en servir, là, il est fondamental d'accompagner l'informatique d'une humanité, d'accompagner l'informatique de structures et de personnes qui peuvent assister les utilisateurs dans l'utilisation de ces moyens. Et ça, ça a été une demande qui est devenue très forte aussi, qu'on a entendue. Pour ne pas exclure.
Et ça, là, on retrouve Gilets jaunes, enfin, disons...
Et que l'administration et l'État ne soient pas à 100% informatiques. Qu'elles soient à 90%, à 95%, que l'informatique puisse permettre de faire des économies considérables, tout à fait clairement, mais qu'il y ait toujours une porte d'accompagnement des personnes qui n'ont pas la culture qui leur permet d'utiliser l'informatique. Et puis, il y a un grand progrès aussi à faire du côté de l'informatique vers la transparence, vers l'unification des logiques d'accès, parce qu'elles ne sont pas forcément toujours très simples, entre l'URSSAF, les impôts, les demandes de carte grise ou de permis de conduire. Là, il y a chaque fois une logique très spécifique. Et donc, l'État doit faire un travail considérable,
oui, parce
pour
qu'on
unifier
est le même citoyen
services.
Quand on demande un permis de conduire, une carte grise, une information sur les impôts ou une information à Pôle emploi. Enfin,
et là, les progrès peuvent être considérables. Les progrès dans le service offert, dans ce qu'on appelle une interface en informatique, un moyen d'accès simple et surtout homogène et uniforme pour tous les usages. Et en même temps, ce moyen d'accès doit être complété par des services humains pour les personnes qui n'ont pas accès directement à cela.
Parce que les gens demandaient...
Dans notre groupe, il y avait donc 15 personnes la deuxième fois, environ 12 la première fois. Deux personnes n'avaient pas d'adresse mail et ont eu reçu le compte-rendu par adresse normale, courrier, qui a toujours très bien fonctionné. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que malgré la complexité des problématiques, il est intéressant que des personnes ne se trouvent pas exclues de ça. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne peut pas comprendre, on a le droit de comprendre. Et il y a un effort non pas de simplification, mais un effort de communication important à mener pour que les citoyens se sentent considérés et formés, informés déjà, et parce qu'on se rend bien compte que pour pouvoir parler, débattre de questions, faut-il encore savoir de quoi l'on parle. Et là, il y a aussi un rôle important des services publics pour
communiquer. Le grand débat était très intéressant à cet égard, parce que dans tous les groupes, je crois qu'il y a eu l'aller-retour entre ceux qui ont pris des notes, ceux qui ont fait les comptes rendus et ceux qui les ont envoyés aux participants qui avaient laissé leur adresse. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose à mettre en positif, la capacité de se lier avec des gens que l'on ne connaît pas, mais parce qu'à un moment donné, on a partagé un moment. Ça, je crois que c'est quand même...
Oui, j'ai
lieu d'avenir ou d'espérance.
Tout à fait. Et c'est des messages exactement dans ces termes-là que moi, en tant que rapporteur, j'ai reçu d'une dizaine de personnes qui ont lu les notes et qui ont eu, pour trois d'entre elles, le soin de réécrire un complément pour pouvoir justement apporter d'autres éléments, donc continuer en fait le débat. Et il m'a paru important de garder in extenso tous ces écrits pour pouvoir bien prendre en compte l'opinion de chacun et de laisser un peu la sécheresse de la synthèse de notes, de débats qui ne reflétaient pas non plus complètement, justement, cette envie de participer.
Oui, alors en conclusion, on peut dire que souvent on se lamente en disant les citoyens se désintéressent, et en fait là on s'aperçoit qu'autour du grand débat, il y a eu la manifestation d'un intérêt, donc ça veut dire que le civisme et la citoyenneté sont bien enracinés.
Moi, je dirais un mot pour revenir à ce qu'on évoquait au départ. Ça ne va servir à rien. On ne sera pas écouté. Eh bien,
qui sait ?
Qui sait ? Les points ont été donnés, les paris sont à prendre. Et le gouvernement a été assez fou pour lancer ce grand débat. Peut-être sera-t-il assez fou pour écouter.
Eh bien, merci Luc, merci Bernard d'être venu à Radio Grand Ciel pour... rappeler cette initiative et ce moment important de vie citoyenne.
Merci
à toi. Je dis bonne semaine à tous, au revoir.